Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la radio fréquencier 97.9 FM. Aujourd'hui, nous accueillons avec un grand honneur Monsieur Damien Pichereau, député de la première circonscription de la Sarthe. Bonjour Monsieur Pichereau.
Bonjour.
Donc, comme on l'a dit juste avant, vous êtes le député de la première circonscription de la Sarthe, donc c'est quand même un rang assez élevé. Pourquoi vous êtes engagé professionnellement dans une carrière politique et comment en êtes-vous arrivé à accéder à ce rang ?
Alors, déjà, il y a deux termes qui ne vont pas ensemble. Professionnel et politique. Justement, ce qu'on défend nous, c'est que faire de la politique, c'est surtout pas être professionnel, c'est pas faire une carrière, parce que quand on arrive à faire carrière, c'est-à-dire à faire des dizaines d'années en politique comme certains l'ont fait, et ben, à un moment ou à un autre, on renouvelle plus les idées, on n'apporte plus d'idées nouvelles et on n'a plus la motivation nécessaire pour pouvoir faire avancer le pays par nos idées. Donc l'idée qu'on a justement, c'est de dire on fait de la politique, mais c'est sur une période déterminée, une période plutôt courte. Comment j'en suis arrivé là ? Moi, je me suis toujours intéressé de près à la politique, à l'intérêt général, en fait, tout simplement, s'intéresser à l'avenir des jeunes, hein, dont je fais encore partie, du moins je l'espère, s'intéresser à l'avenir de notre planète, bref, s'intéresser à ce que chacun puisse vivre mieux, et ça, c'est depuis que je suis tout petit, c'est des valeurs que m'ont inculqué mes parents, ma famille, qui fait que je me suis toujours intéressé plutôt près à la politique, et j'ai eu cette opportunité de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron à l'époque, hein, puisque je m'occupais justement des jeunes avec Macron sur tout le département sartois, puis de me présenter aux législatives. Encore fallait-il être élu, donc ça a été une campagne qui a été longue et en même temps courte, hein, puisque c'était un petit peu plus d'un mois, mais une campagne difficile où il faut aller voir tout le monde, le maximum de monde, pour convaincre les gens que vous êtes la personne la plus à même de défendre vos concitoyens à l'Assemblée nationale. C'est ce que j'ai fait. J'ai pu être élu avec seulement 56 voix d'avance, donc c'est rien, et c'est quelque chose qui est motivant au quotidien, parce qu'on se dit on a que 56 personnes qui nous ont finalement permis d'accéder à l'Assemblée nationale, et on doit se battre pour continuer à convaincre et à prouver qu'on fait bien notre travail. Donc voilà le petit cheminement de manière très synthétique, puisque tout ça s'étale en réalité sur quasiment 30 ans.
D'accord. Et pourriez-vous nous raconter la journée type d'un député, du lever du matin jusqu'au coucher du soir, et comment se passe une séance plénière à l'Assemblée plénière ?
Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, et c'est ce qui fait que c'est intéressant, c'est que, en fait, chaque journée est différente. Maintenant, sur la globalité, une moyenne, on commence en général à 8 heures, on commence par quelques réunions, généralement avec d'autres députés, pour échanger sur différentes idées et des amendements apportés. Un amendement, qu'est-ce que c'est ? C'est une modification de la loi. La loi, elle est soit proposée par le gouvernement ou par un député. C'est soit un projet de loi pour le gouvernement, soit une proposition de loi si c'est un député qui la propose, et on peut l'amender, c'est-à-dire la modifier. Et ça, souvent, on fait des réunions pour en discuter. Ensuite, ce qu'il faut savoir à l'Assemblée, c'est que vous avez deux choses. Vous avez d'un côté ce qui se passe dans l'hémicycle, donc c'est ce qu'on voit à la télé, c'est les fauteuils rouges, c'est tout l'apparat, entre guillemets, de l'Assemblée nationale, et puis il y a les commissions. Les commissions, c'est commission développement durable, finances, affaires économiques, affaires européennes, commission des lois. Bref, c'est des commissions qui sont vraiment saisies sur le fond, sur une spécialité, sur une thématique spéciale. Et c'est là qu'on travaille au final le plus les lois. Et ces commissions, en général, elles se déroulent plutôt le matin ou le matin, après-midi, voire le soir. Certains jours, ça dépend des lois qu'on a. Donc on commence à 8 heures, on essaie de s'arrêter pour manger, pour déjeuner, mais c'est très très rare, sincèrement. Généralement, on mange sur le pouce un sandwich. Ensuite, l'après-midi, on a les questions au gouvernement le mardi et le mercredi, donc qui nous bloquent de 15h à 16h dans l'hémicycle, parce qu'on doit être présent, hein, c'est filmé, c'est là que les gens voient si on est présent ou pas, et les gens, généralement, préfèrent qu'on soit présent. J'y suis en général, et ensuite, on continue à examiner les projets de loi. Donc jusqu'au soir, jusqu'à 1h du matin, où en général, on ferme la séance, mais parfois ça peut durer jusqu'à 4-5 heures du matin, ça nous est déjà arrivé. Moi, le maximum que j'ai terminé, ça devait être 4 heures pour l'instant. Et on reprend le lendemain sur le même rythme.
Donc, Monsieur Pichereau, pendant cette première année au sein de l'Assemblée plénière, vous avez pu mener à bien les projets que vous souhaitiez mettre en place ?
Oui, après, le quinquennat dure 5 ans, donc on a beaucoup de choses à porter. Moi, je travaille énormément sur les projets de mobilité, que ce soit au niveau français ou au niveau européen d'ailleurs, parce que j'essaie de faire en sorte que les députés français travaillent beaucoup plus avec l'Europe, avec Bruxelles, parce que ça me semble être important. On a aussi beaucoup de lois qui en réalité sont définies au niveau européen et appliquées également en France, donc on travaille avec eux. Donc, est-ce que tout ce que je voulais faire a été fait ? Non, et heureusement, parce que sinon c'est vrai que je pourrais prendre des vacances, et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai encore beaucoup à faire, mais oui, on a déjà des choses qui ont pu passer. Je me bats actuellement sur différents amendements sur le projet de loi de finances qui vise justement à faire en sorte que les gens qui ont des voitures électriques ne soient pas désavantagés par rapport à ceux qui ont des voitures essence ou gasoil, ce qui est le cas actuellement. C'est-à-dire que quand on utilise un véhicule électrique actuellement, il faut savoir que, si on l'utilise pour aller au travail, je parle, on est moins remboursé que si on avait un véhicule essence ou diesel. Ça me semble pas logique, d'autant plus qu'à l'achat, un véhicule électrique est plus cher. Donc on fait en sorte de régler ce problème et de ramener simplement une sorte de justice entre les deux.
D'accord. Nous avons pu lire dans l'édito de votre lettre d'information, où vous publiez votre programme, que les transports ferroviaires étaient au centre de votre action. Alors, malgré les multiples sujets dont vous pourriez traiter, pourquoi avoir choisi de vous pencher particulièrement sur celui des transports ferroviaires, pardon ?
Alors, au-delà du transport ferroviaire, je m'occupe vraiment des transports en général. C'est vrai que cette année a été marquée par le transport ferroviaire, que ce soit au niveau national, avec la loi, le pacte ferroviaire qui a été voté, qui vise notamment à faire en sorte d'ouvrir la concurrence sur les lignes nationales pour permettre de baisser les prix sur ces lignes nationales. Et puis, d'un point de vue local, on a des problèmes aussi sur le ferroviaire. On a un problème avec des trains qui roulent pas assez vite sur la ligne Alençon-Le Mans, et puis des trains qui, selon certains, roulent trop vite et font trop de bruit. Là, c'est le cas de la ligne TGV qui passe au nord du Mans. Donc c'est une question d'actualité. On se bat pour faire en sorte que chacun puisse être heureux, puisse cohabiter avec le train, puisse utiliser également le train. Et ça me semble essentiel, notamment avec les problématiques d'environnement qu'on connaît tous ici.
D'accord.
Sinon, on a également lu dans votre lettre d'information que vous aviez soutenu les projets du stand de tir sur le site de Pexan aux côtés de M. Jean-Claude Boulard, qui a initié et porté ce projet avant son décès. Pourquoi ce projet vous intéressait-il tant ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers comme les gendarmes sont obligés d'aller régulièrement au stand de tir pour pouvoir s'entraîner à tirer. On espère évidemment qu'ils servent le moins possible de leur arme, mais au cas où ils auraient besoin de s'en servir, ils sont obligés d'avoir un entraînement, et c'est tant mieux. Cet entraînement, aujourd'hui, il fallait qu'ils aillent soit à La Ferté-Bernard, soit à Angers. Donc, au minimum 45 minutes à une heure de route sur leur temps libre. Ça semble pas normal, je me dis que les principales casernes, commissariats aujourd'hui sont situées au Mans, donc on a la place, tout est prévu pour pouvoir faire un stand de tir au Mans, et je suis très content qu'on y travaille non seulement avec Jean-Claude Boulard, mais aussi avec d'autres collègues députés, que ce soit Pascal Fontenelle-Person ou Marietta Caramanli, à faire en sorte que ce projet puisse aboutir, et il aboutira dans les mois qui viennent.
D'accord.
Que ferez-vous pour inciter la population à consommer moins de viande pour préserver notre planète, et comment concilier les éleveurs et le mouvement végétarien ?
C'est pas à nous de choisir à la place du consommateur ce qu'ils doivent consommer. Nous, on est là pour faire en sorte que le consommateur, il ait une viande ou des légumes de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de problème de risque sanitaire, mais on n'est pas là pour guider le choix du consommateur. Ça, c'est la base, c'est le consommateur choisit. Après, on ne va pas faire en sorte que tout le monde arrête de consommer de la viande, que tout le monde devienne végétarien, ou qu'au contraire, on arrête complètement de consommer des légumes et que tout le monde devienne carnivore. Par contre, il y a une chose auquel l'État, la loi et également nos forces de l'ordre doivent contribuer, c'est à faire en sorte que la loi soit respectée et qu'il y ait du respect entre les deux. Quand je vois aujourd'hui des associations qui défendent le véganisme qui vont casser des boucheries, par exemple, je peux pas l'accepter. Là, on ne respecte pas la loi, on ne peut pas l'accepter, et la loi doit s'imposer et les forces de l'ordre doivent intervenir. Et le contraire est vrai également. On ne doit pas avoir de phénomène de représailles comme on a pu connaître malheureusement au Mans récemment, où une vitrine d'une boutique végane a été également abîmée, a été massacrée. On ne peut pas l'accepter.
Monsieur Pichereau, quelle autre cause souhaiteriez-vous défendre par-dessus tout, et pourquoi cette cause en particulier ?
Alors, quelle autre cause ? Il y en a beaucoup, hein. Mais moi, comme je disais, je m'occupe beaucoup de mobilité parce que je pense que c'est essentiel. La mobilité, c'est comment je fais pour aller à l'école, pour apprendre au quotidien, comment je fais pour aller au médecin, comment je fais pour aller au travail. Voilà, ça, c'est une cause qui me tient à cœur, et c'est ce qu'on appelle la mobilité inclusive. C'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde, peu importe ses revenus, peu importe l'endroit où il se situe en France, peu importe ses capacités physiques également, puisse accéder à la mobilité et puisse aller chez un médecin, puisse aller à son travail, puisse aller à l'école à moindre coût. Donc ça, c'est ce qu'on va travailler là dans la loi d'orientation des mobilités. Je me bats personnellement pour qu'on mette en place un fonds de mobilité inclusive qui fasse en sorte qu'on puisse développer des plateformes qui sont là pour apprendre aux gens, apprendre à prendre les transports en commun, apprendre à ne plus utiliser seulement leur voiture, parce que la voiture, ça coûte de plus en plus cher. Donc on doit aussi pouvoir diversifier et voir comment on peut utiliser le moins possible sa voiture, mais tout en continuant à se déplacer, et même peut-être en se déplaçant plus, mais moins cher. Donc voilà, on essaie de mettre de l'argent là-dessus pour faire en sorte de repenser totalement la mobilité et sortir du tout voiture, qui de toute façon sera à moyen terme une ruine, parce que ça, c'est pas l'État. le pétrole va être de plus en plus cher. On sait, c'est une denrée qui se raréfie, on est obligé d'aller de plus en plus profondément pour aller chercher, et plus on va profondément, plus ça coûte cher, donc le pétrole va continuer à augmenter, on le sait. Donc on doit diminuer notre dépendance au pétrole et à la voiture.
J'avais une deuxième question aussi. Vous pensez quoi de l'association L214, qui est une association qui infiltre des caméras cachées dans les abattoirs pour dénoncer et plaquer au grand public leur manière barbare un peu de tuer les animaux? Vous en pensez quoi?
Alors, j'ai rien contre cette association. Maintenant, il faut faire attention à comment on interprète aussi les images. Et c'est ça le problème, c'est que parfois on a des images qui passent. On se demande même des fois si c'est bien fait en France. On ne sait pas exactement de quand ça date. On sait qu'il y a eu des images qui ont été ressorties récemment, qui avaient été tournées il y a 7-8 ans sur des abattoirs qui avaient été déjà condamnés à l'époque, et on nous dit que c'est aujourd'hui. Non, il faut une juste interprétation, qu'on sache exactement ce qui se passe. Et s'il y a des problèmes, la loi est là aussi pour intervenir. Donc on a fait en sorte de justement condamner plus les gens qui maltraitent les animaux. Moi, j'ai confiance en nos agriculteurs, j'ai confiance dans nos abattoirs, je sais qu'ils font un travail extraordinaire. Et c'est sûrement pas un ou deux ou trois qui sont parfois mis en lumière de manière dramatique par ce type d'association qui doivent nous faire penser le contraire. Nos agriculteurs font un excellent travail sur le terrain.
Pour terminer, nous les jeunes, ce qui nous préoccupe le plus, c'est bien notre avenir, et notamment l'accès à l'emploi aussi. Que faites-vous pour nous garantir un bon avenir, concrètement?
Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une excellente question. Le chômage des jeunes, c'est un vrai problème. Moi, j'y étais confronté. Je suis sorti de mes études. J'ai attendu quasiment un an avant de trouver un emploi. Les chiffres sont meilleurs. C'est parce que aujourd'hui la situation économique en France s'est améliorée, la France va mieux, c'est une réalité, et les chiffres chez le chômage des jeunes vont mieux puisque le chômage des jeunes a baissé en l'espace d'un an de 2,5%, passant de 27,5 à 25. C'est toujours 25 de trop. Qu'est-ce qu'on fait? On met en place des plans de formation qui visent justement à faire en sorte que l'élève soit plus proche de l'entreprise, que ce soit notamment par le développement de l'apprentissage, pour faire en sorte qu'il puisse être intégré plus rapidement à l'entreprise à la sortie de ses études. Il faut réconcilier l'école et l'entreprise. Je souhaite qu'on multiplie les stages, que les élèves s'intéressent beaucoup plus tôt au monde de l'entreprise, et puis aussi valoriser l'apprentissage et améliorer aussi l'orientation pour que les jeunes puissent choisir au plus tôt la voie qu'ils souhaitent suivre et qu'ils puissent la suivre de la manière la plus sereine possible.
D'accord. Bah merci de nous avoir accordé cette interview.
Merci à vous.
Et puis, bah...
Alors, est-ce que dans la salle, il y a quelques questions de plus parmi ceux qui écoutent? Vous avez une interrogation peut-être? Allez-y, c'est le moment.
Ne soyez pas timide, hein, allez-y. Je ne reviendrai pas toutes les semaines, donc c'est le moment ou jamais.
C'est le moment ou jamais. Bah justement, bah, j'aimerais bien poser une question de professeur, évidemment. Donc la réforme proposée par notre ministère de l'Éducation nationale, qu'en pensez-vous les dernières réformes du lycée et du pro qui vont arriver?
Ouais, les réformes, selon moi, vont dans le bon sens. On a besoin aujourd'hui d'une réforme, notamment du bac. Le bac comme le brevet ne sont devenus que des portes d'entrée aux études supérieures. Je pense que le bac, on doit le valoriser un petit peu plus, et ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, qui est décloisonner un petit peu justement ce diplôme du baccalauréat pour lui redonner plus de sens et aussi le personnaliser un petit peu plus au parcours de l'élève, pour moi ça va dans le bon sens.
Très bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
D'autres questions dans la salle? Non, bah, le mot de la fin, Florian.
Bah, voilà, merci d'être venu.
Merci à vous de m'avoir reçu surtout.